En dépit de son retour triomphal, le colonel Aureliano Buendía ne se laissait pas griser par les apparences. Les troupes gouvernementales abandonnaient les places sans résistance, et cela créait dans les rangs libéraux une illusion de victoire dont il n'était pas opportun de les priver. Mais les révolutionnaires connaissaient bien la vérité, et mieux que tout autre, le colonel Aureliano Buendía. Bien qu'il eût à l'époque plus de 5000 hommes sous ses ordres et domina deux états du littoral, il avait conscience d'être acculé à la mer et placé dans une situation politique si confuse que le jour où il ordonna de restaurer le clocher de l'église abattu par un coup de canon de l'armée régulière, le père Nicanor put dire sur son lit de malade « Ironie du sort, les défenseurs de la foi du Christ détruisent le temple et ce sont les maçons qu'il faut réparer !» Cherchant quelques brèches par où s'enfuir, il passait des heures et des heures dans le bureau du télégraphe conférant avec les commandants d'autres places et chaque fois, son impression en sortait renforcée que la guerre était en train de s'enliser. Quand arrivait l'annonce de nouveaux triomphes libéraux, leur proclamation faisait l'objet d'avis pleins d'allégresse, mais lui-même mesurait sur les cartes la véritable progression de ses troupes et comprenait qu'elles ne faisaient que pénétrer dans la jungle, où elles auraient à se défendre de la malaria et des moustiques, tournant le dos à la réalité. « Nous sommes en train de perdre notre temps !» se plaignit-il à ses officiers. « Nous continuerons à perdre notre temps tant que tous ces cons du parti ne cesseront de mendier un siège au Congrès !» Pendant les nuits de veille, étendu sur le dos dans son hamac qu'il suspendait dans la pièce même où il avait été condamné à mort, il se figurait tous ces avocats vêtus de noir qui quittaient le palais présidentiel dans le petit matin glacé, le col de leur manteau relevé jusqu'aux oreilles, se frottant les mains, chuchotant entre eux, se réfugiant dans les petits bistrots lugubres du point du jour, pour spéculer sur ce qu'avait voulu dire le président lorsqu'il avait dit oui, ou sur ce qu'il avait voulu dire quand il avait dit non, et par la même occasion faire des suppositions sur ce que le président était en train de penser lorsqu'il disait quelque chose de tout à fait différent, tandis que lui-même chassait les moustiques par 35 degrés de chaleur, sentant s'approcher cette aube redoutable où il lui faudrait donner à ses hommes l'ordre de se précipiter à la mer. Par une nuit d'incertitude, alors que Pilar Ternera chantait dans le patio avec la troupe, il demanda qu'elle vînt lui lire l'avenir dans les cartes. « Attention à la bouche !» Ce fut tout ce que Pilar Ternera put tirer au clair après avoir étalé et ramassé les cartes par trois fois. « J'ignore ce que cela signifie, mais le signe est tout à fait limpide. Attention à la bouche !» Deux jours plus tard, quelqu'un remit à une ordonnance un bol de café non sucré, que l'ordonnance passa à un autre, et celui-ci à un autre encore, jusqu'à ce que le bol, passant de main en main, arriva au bureau du colonel Aureliano Buendía. Il n'avait pas demandé de café, mais puisqu'on lui en proposait, le colonel le but. Il contenait une dose de noix vomique capable de tuer un cheval. Lorsqu'on le porta à la maison, il était tout raide et arqué, la langue coupée entre les dents. Ursula entreprit de l'arracher à la mort. Après lui avoir nettoyé l'estomac à l'aide de vomitifs, elle l'enveloppa de couverture chaude et lui fit absorber des blancs d'œufs pendant deux jours jusqu'à ce que le corps ravagé par l'empoisonnement recouvrit sa température normale. Au quatrième jour, il était hors de danger. Bien malgré lui, cédant aux adjurations d'Ursula et des officiers, il resta au lit une semaine de plus. Ce n'est qu'alors qu'il apprit qu'on n'avait pas brûlé ses verres. « Je ne voulais pas me presser, » expliqua Ursula. « Cette nuit-là, au moment d'allumer le four, je me suis dit qu'il valait mieux attendre qu'on apporte le cadavre. » Dans le brouillard de la convalescence, entouré des poussiéreuses poupées de Remedios, le colonel Aureliano Buendía, relisant ses vers, vit repasser dans son esprit les instants décisifs de son existence. Il se remit à écrire. Pendant de longues heures, en marge des soubresauts d'une guerre sans avenir, il récapitula en vers rimés ses expériences à la lisière de la mort. Ses pensées se firent alors si claires qu'il put les examiner sur l'endroit et sur l'envers. Un soir, il demanda au colonel Guérineldo Marquez « Dis-moi une chose, camarade. Pourquoi te bats-tu ? » « Parce qu'il le faut, camarade, » répondit le colonel Guérineldo Marquez. « Pour le grand parti libéral !»« Tu as bien de la chance de pouvoir répondre, » répliqua-t-il. « Pour ma part, c'est à peine si je me rends compte à présent que je me bats par orgueil. »« Ça, ça n'est pas bien, » fit le colonel Guérineldo Marquez. Son inquiétude amusa le colonel Aureliano Buendía. « Naturellement, » dit-il, « mais dans tous les cas, ça vaut mieux que d'ignorer pourquoi on se bat. » Il le regarda dans les yeux et ajouta en souriant, « ou de se battre comme toi pour quelque chose qui n'a de sens pour personne. » Son orgueil l'avait empêché d'entrer en rapport avec les groupes armés de l'intérieur du pays, tant que les responsables du parti ne seraient pas revenus publiquement sur leur déclaration selon laquelle il n'était qu'un bandit de grand chemin. Cependant, il était conscient qu'aussitôt qu'il mettrait de côté ses scrupules, il romprait le cercle vicieux de la guerre. La convalescence lui donna le temps d'y réfléchir. Il obtint alors qu'Ursula lui remit le reste de l'héritage enterré et ses nombreuses économies. Il nomma le colonel Guérinaldo Marquez commandant civil et militaire de Macondo et s'en alla établir la liaison avec les groupes rebelles de l'intérieur. Le colonel Guérinaldo Marquez n'était pas seulement l'homme en qui avait le plus confiance le colonel Aureliano Buendía, mais Ursula le recevait à la maison comme un membre de la famille. Fragile, timide, d'une bonne éducation naturelle, il était pourtant mieux fait pour la guerre que pour l'administration. Ses conseillers politiques n'avaient pas de mal à l'égarer dans les labyrinthes de leurs théories. Mais il réussit à faire régner à Macondo ce climat de paix rurale dans lequel le colonel Aureliano Buendía rêvait de mourir un jour de vieillesse, fabriquant des petits poissons en or. Bien qu'il habitât chez ses parents, il déjeunait chez Ursula 2 à 3 fois par semaine. Il initia Aureliano José au maniement des armes à feu, lui donna une instruction militaire précoce et plusieurs mois de suite l'emmena vivre à la caserne avec le consentement d'Ursula afin qu'il se fît homme. Bien des années auparavant, encore presque enfant, Guérinaldo Marquez avait fait sa déclaration d'amour à Amaranta. Celle-ci était alors si aveuglée par sa passion solitaire pour Pietro Crespi qu'elle avait ri de lui. Guérinaldo Marquez patienta. Un jour, depuis la prison, il envoya un petit mot à Amaranta lui demandant le service de lui broder 12 de mouchoirs de batiste aux initiales de son père. Il lui fit parvenir de l'argent. Au bout d'une semaine, Amaranta se rendit à la prison pour lui remettre 12 de mouchoirs brodés et lui rendre l'argent, et ils restèrent plusieurs heures à parler du passé. « Quand je sortirai d'ici, ce sera pour t'épouser », lui dit Guérinaldo Marquez au moment de prendre congé. Amaranta eut un sourire, mais ne cessa de penser à lui tout en apprenant à lire aux enfants, et elle désira revivre avec lui la passion juvénile qu'elle avait éprouvée pour Pietro Crespi. Le samedi, jour de visite aux détenus, elle passait par chez les parents de Guérinaldo Marquez et les accompagnait à la prison. Un de ces samedis, Ursula s'étonna de la trouver à la cuisine, attendant qu'on sortît les biscuits du four pour choisir les meilleurs et les envelopper dans une serviette qu'elle avait brodée pour la circonstance. « Marie-toi avec lui, » lui dit-elle. « Tu auras du mal à trouver un homme comme lui. » Amaranta feignit de faire la dégoûter. « Je n'ai nul besoin de courir après les hommes, » répliqua-t-elle. « Je porte ces biscuits à Guérinaldo Marquez parce qu'on va le fusiller tôt ou tard et que j'en ai pitié. » Elle ne pensait pas un mot de ce qu'elle disait. Mais ce fut à ce moment-là que le gouvernement rendit publique sa menace de passer le colonel Guérinaldo Marquez par les armes si les forces rebelles ne rendaient pas Riohacha. On interdit les visites. Amaranta s'enferma pour pleurer, accablée par un sentiment de culpabilité identique à celui qui l'avait tourmenté à la mort de Remedios, comme si ses paroles irréfléchies avaient pour la seconde fois causé la mort de quelqu'un. Sa mère la consola. Elle lui assura que le colonel Aureliano Buendía ferait quelque chose pour empêcher l'exécution et promit qu'elle-même se chargerait d'attirer Guérinaldo Marquez lorsque prendraient fin les hostilités. Elle tint cette promesse avant le terme prévu. Quand Guérinaldo Marquez revint à la maison, investi de sa nouvelle dignité de commandant civil et militaire, elle le reçut comme un fils, conçut d'exquises flatteries pour le retenir et pria avec toute l'ardeur de son cœur pour qu'il se souvînt de son projet d'épouser Amaranta. Ses prières avaient l'air d'agir. Les jours où il venait déjeuner à la maison, le colonel Guérinaldo Marquez restait tout l'après-midi sous la véranda au Bégonia à faire des parties de dames avec Amaranta. Ursula leur apportait du café au lait et des biscuits et s'occupait des enfants pour qu'ils ne vinssent pas les déranger. En fait, Amaranta devait se forcer pour rallumer dans son cœur les cendres oubliées de sa passion juvénile. C'est avec une impatience qui arrivait à devenir intolérable qu'elle attendait les jours où il venait déjeuner, les après-midi de dames, les heures fugitives en compagnie de ce guerrier au nom plein de nostalgie, dont les doigts tremblaient imperceptiblement lorsqu'il bougeait les pions. Mais le jour où le colonel Guérinaldo Marquez lui fit part à nouveau de sa volonté de l'épouser, elle le repoussa. « Je ne me marierai avec personne, » lui dit-elle. « Avec toi, moins qu'avec tout autre. Tu aimes tellement Aureliano que tu m'épouserais faute de pouvoir te marier avec lui. Le colonel Guirinaldo Marquez était un homme patient. « J'insisterai encore, lui dit-il. Tôt ou tard, je te convaincrai. » Il continua à venir à la maison. Enfermé dans sa chambre, ravalant ses larmes en secret, Amaranta se bouchait les oreilles pour ne pas entendre la voix de son prétendant qui narrait à Ursula les dernières nouvelles de la guerre, et bien qu'elle mourût d'envie de le voir, elle eut la force de ne pas sortir à sa rencontre. Le colonel Aureliano Buendía trouvait alors le temps d'envoyer tous les 15 jours un rapport détaillé à Macondo. Mais il n'écrivait à Ursula qu'une seule fois, bientôt 8 mois après son départ. Un messager spécial s'en vint porter à la maison une enveloppe cachetée contenant une feuille de papier où l'on reconnaissait l'écriture précieuse du colonel. « Prenez bien soin de papa, car il va mourir. » Ursula prit peur. « Si Aureliano le dit, c'est qu'Aureliano le sait, » fit-elle. Et elle demanda qu'on lui prêtât main forte pour transporter José Arcadio Buendía jusque dans sa chambre. Non seulement il était aussi lourd qu'avant, mais durant son séjour prolongé sous le châtaignier, il avait acquis peu à peu la faculté d'augmenter de poids à volonté, si bien que 7 hommes ne purent en venir à bout et qu'il fallut le traîner pour le conduire jusqu'à son lit. Une odeur de champignons frais, de fleurs d'arbres, d'intempéries anciennes et concentrées imprégna l'air de la chambre dès que le vieux colosse macéré sous le soleil et la pluie se fut mis à le respirer. Le lendemain, au point du jour, il ne se trouvait plus dans son lit. Après l'avoir cherché dans toutes les chambres, Ursula le découvrit de nouveau sous le châtaignier. Ils l'attachèrent alors sur son lit. Malgré toutes ses forces demeurées intactes, José Arcadio Buendía n'était pas en état de lutter. Tout lui était égal. S'il était retourné sous le châtaignier, ce n'était pas volontairement, mais par une sorte de réflexe de son organisme. Ursula s'occupait de lui, lui donnait à manger, lui apportait des nouvelles d'Aureliano. Mais en réalité, le seul être avec qui il pouvait entrer en rapport depuis bien longtemps, c'était Prudencio Aguilar. Déjà presque réduit en poussière par la profonde décrépitude de la mort, Prudencio Aguilar venait 2 fois par jour bavarder avec lui. Il parlait de coqs de combat. Il se promettait d'organiser un élevage de bêtes magnifiques, non pas tant pour jouir de quelques victoires dont il n'avait plus nul besoin, mais pour se réserver de quoi se distraire pendant les ennuyeux dimanches de la mort. C'était Prudencio Aguilar qui lui faisait sa toilette, lui donnait à manger et lui apportait de merveilleuses nouvelles d'un inconnu nommé Aureliano, colonel à la guerre. Quand il était seul, José Arcadio Buendía se consolait en rêvant à une succession de chambres à l'infini. Il rêvait qu'il se levait de son lit, ouvrait la porte et passait dans une autre chambre identique à la première, avec le même lit à tête en fer forgé, le même fauteuil de rotin et le même petit tableau avec la Vierge des Remèdes sur le mur du fond. De cette chambre, il passait à une autre exactement semblable, dont la porte livrait passage dans une autre exactement semblable, puis dans une autre exactement semblable à l'infini. Il aimait aller ainsi de chambre en chambre, comme dans une galerie de glace parallèle, jusqu'à ce que Prudencio Aguilar vint lui toucher l'épaule. Il se retournait alors de chambre en chambre, s'éveillant au fur et à mesure qu'il revenait en arrière, et parcourait le chemin inverse et trouvait Prudencio Aguilar dans la chambre de la réalité. Mais une nuit, 2 semaines après qu'on l'eût emmené jusque dans son lit, Prudencio Aguilar lui toucha l'épaule dans une chambre intermédiaire, et il y demeura à jamais, croyant que c'était là sa chambre réelle. Le lendemain matin, Ursula lui portait son petit déjeuner quand elle vit un homme s'approcher par le couloir. Il était de petite taille, massif, vêtu d'un costume de drap noir, portant un chapeau également de couleur noire, énorme, enfoncé jusqu'à ses yeux moroses. « Mon Dieu !» pensa Ursula. « J'aurais juré que c'était Melquiades !» C'était Cataoré, le frère de Visitación, qui avait quitté la maison fuyant la peste de l'insomnie et dont on n'avait plus jamais eu de nouvelles. Visitación lui demanda pourquoi il était revenu et il lui répondit dans son langage plein de solennité « Je suis venu pour l'enterrement du roi. » Ils pénétrèrent alors dans la chambre de José Arcadio Buendía, le secouèrent de toutes leurs forces, lui crièrent à l'oreille, lui mirent une glace devant les narines, mais ne parvinrent pas à le réveiller. Peu après, tandis que le menuisier prenait ses mesures pour le cercueil, ils virent par la fenêtre tomber une petite pluie de minuscules fleurs jaunes. Elles tombèrent toute la nuit sur le village en silencieuse averse, couvrirent les toits, s'amoncelèrent au bas des portes et suffoquèrent les bêtes dormant à la belle étoile. Il tomba tant de fleurs du ciel qu'au matin les rues étaient tapissées d'une épaisse couverture et on dut les dégager avec pelles et râteaux pour que l'enterrement pût passer.